Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme vous le voyez affiché à l'écran, le thème de la méditation d'aujourd'hui, ce sera David, un homme selon le cœur de Dieu. En guise d'introduction, je vous lirai trois versets. Le premier est une parole qu'adresse le prophète Samuel au roi Saül. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. En effet, Saül a perdu la faveur de Dieu, car il a gravement péché en offrant lui-même un holocauste, charge qui était réservée exclusivement aux prêtres. Le second verset se trouve dans le premier livre des rois, 1 Rois 15, verset 5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Nous voyons ici que les actions de David ont été approuvées par Dieu, à une exception notable près, lorsqu'il commit un adultère avec Bathsheba et fit ensuite en sorte qu'Uri, son mari, soit tué au combat. Le troisième verset est une parole qu'on trouve dans le livre de Néhémie, chapitre 13, verset 26, qui nous parle d'un autre roi d'Israël, ici Salomon. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Salomon eut une réputation qui dépassa celle de tous les autres rois de la terre, nous dit-il. Dieu l'a béni richement parce qu'il avait demandé pour lui l'intelligence nécessaire pour administrer la justice sur Israël, pour qu'Israël sache discerner entre le bien et le mal, avait-il. Cette demande plut à Dieu qui lui accorda ce qu'il demandait, mais bien plus encore, la richesse, la gloire. Pourtant, le verset de Néhémie que nous avons lu nous montre qu'il a finalement chuté lui aussi en se laissant entraîner dans des cultes idolâtres. On voit là que finalement, on peut être choisi par Dieu, aimé de Dieu, et pourtant, à certains moments, failli. Et donc, si notre propos concernera davantage David, j'ai voulu montrer que si David était un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas si facile que ça, de rester fidèle à Dieu et de réussir dans la mission qu'il nous a confiée. Bien sûr, Saül aussi a péché. David aussi a péché. Mais l'Écriture semble dire que c'est beaucoup plus occasionnel que Saül et Salomon, dont les fautes étaient plus habituelles. Je vous propose donc ce matin un survol très rapide de la vie de David et de voir en quoi il fut différent des autres rois et pourquoi il est le seul roi à figurer dans la liste des héros de la foi d'Hébreux 11. Parmi les patriarches et les prophètes. Nous essaierons aussi d'en tirer quelques enseignements pour nous-mêmes, de manière à essayer nous aussi de nous comporter comme des hommes selon le cœur de Dieu. Alors la plus grosse difficulté de ce message a été de faire le tri, parce que quand vous relisez la vie de David, il y a tellement de choses à dire, à commenter, que j'ai décidé de me réduire à trois temps. Et sans être du tout exclusif, j'ai pris un point de vue plus ou moins chronologique parce qu'on n'est pas certain du tout que l'ordre des chapitres dans les deux livres de Samuel corresponde à un ordre chronologique. Mais il fallait faire des choix et surtout ne croyez pas que les choses apparaîtront par ordre d'importance, c'est par ordre chronologique, approximatif, qu'elles apparaissent. Commençons par le temps de la jeunesse. David est le plus jeune d'une fratrie de 8. Et l'Écriture nous dit que dans sa jeunesse, il gardait les troupeaux de moutons de son père Isaïe. Il expliquera à Saül qu'il lui est arrivé lorsqu'un lion ou un ours attaquait une bête du troupeau, de la poursuivre, de lui arracher le mouton de la gueule et de le frapper jusqu'à ce qu'il soit mort. C'était déjà un vaillant combattant, même jeune. C'est pourtant pas ce critère qui différencie de Saül, par exemple, qui lui aussi fut un valeureux chef militaire à qui David rendra hommage dans son éloge funèbre. Au moment où Samuel est envoyé dans la famille d'Isaïe pour faire le choix du futur roi d'Israël, l'Éternel dit à Samuel, à propos d'un frère de David, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Plaire à Dieu, ce n'est pas une question d'apparence, ce n'est pas une question de masque, de comportement qu'on peut adopter. Dieu lit directement dans les cœurs. Quels furent donc les critères de Dieu lorsqu'il choisit David? L'Écriture ne le dit pas explicitement. C'est à nous d'essayer de comprendre ce qui a plu à Dieu dans le comportement de David, à la différence des autres rois. Et il me semble qu'un des premiers traits de caractère de David, c'est qu'on peut dire qu'il aimait Dieu. Un exemple parmi d'autres, sa réaction face à Goliath. Vous voyez la scène, les armées philistines et israélites font face à face, et Goliath, un géant aux armes impressionnantes, sort des rangs et lance un défi aux armées d'Israël, les insultant, les traitant d'esclaves de Saül. Saül, qui est présent, lui est très impressionné par la taille gigantesque de Goliath et par ses armes. Il a peur. Il propose une récompense à celui qui acceptera de combattre Goliath, une forte somme d'argent, sa propre fille en mariage, et si ça ne suffisait pas, une exonération d'impôts pour toute la famille. J'ai envie de faire comme commentaire, il offre ce qu'un roi peut offrir, mais il ne peut absolument pas donner l'assurance de la victoire ni de la survie au combat. David a eu connaissance de la récompense promise, mais ce n'est pas ça qui va le motiver à relever le défi. Il veut laver l'honneur de Dieu, dirons-nous aujourd'hui. Dans 1 Samuel 17, au verset 26, il dit « Mais qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Là où tous voient un guerrier redoutable, David, lui, voit un incirconcis, c'est-à-dire un homme qui n'est pas au bénéfice de l'alliance de Dieu avec son peuple. Il voit un homme qui insulte l'armée du Dieu vivant. Voilà pourquoi il relève le défi et marche au-devant de ce Philistin. Ce n'est pas pour la récompense promise, mais pour laver l'affront fait à Dieu. Quelle application pour nous? C'est aussi un défi pour nous aujourd'hui de défendre la réputation de Dieu et de ne pas laisser insulter son nom. Bien souvent, nous nous taisons et nous laissons dire parce que nous sommes en minorité, parce que nous ne savons pas comment réagir, parce que nous avons peur de sortir du rang. Lorsque nous entendons certains propos qui insultent Dieu, est-ce que nous osons faire savoir respectueusement notre désaccord sur certains sujets et sur certaines paroles? Deux anecdotes simplement, deux petites circonstances de la vie. Un cousin de Myriam travaillait en tant que civil dans l'intendance de l'armée et l'officier supérieur dont il dépendait lançait souvent des jurons, enfin vous imaginez assez facilement, un juron très courant qui insulte le nom de Dieu. Et un jour, ce cousin, probablement inspiré par Dieu, dit à son officier, « Mon commandant, je vais devoir sortir de la pièce. » Ce commandant s'arrête, disant, « Mais pourquoi ?» Mais elle lui dit, « Ben, voyez, moi, je suis chrétien, et les mots que vous professez, là, eh bien, ils insultent Dieu, et ça, je ne peux pas le supporter. » Eh bien, ça a suffi pour que l'officier garde mieux sa langue et change de répertoire de vocabulaire. Sans cette simple remarque, on peut imaginer que les choses auraient continué de la même façon. De même, lorsque nous laissons dire sans réagir, nous pouvons donner à croire que nous acquiesçons ou que nous sommes indifférents. Alors bien sûr, intervenir, c'est prendre un risque. David a essuyé les moqueries de Goliath, voire même de certains Israélites, et ça ne l'a pas arrêté. Une autre fois, je me trouvais à la cantine, c'était à l'époque de Mission France dans les années 80, et une collègue commence à, comme on dit, à déblatérer sur Billy Graham, sur cette religion où on ne parle que d'obéir et d'interdit. À l'époque, j'étais jeune converti. On est quelquefois plus chaud à ce moment-là que quand on est ancien dans la foi. Je le dis à ma honte. Et mes revenus en pensée, ce verset de Matthieu 10, 33, où Jésus dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et quand cette pensée m'est venue, je me suis dit « Mais je ne peux pas me taire. » Et donc j'ai simplement demandé à ma collègue pourquoi elle tenait de tels propos, que lui avait fait Billy Graham pour mériter une telle charge. Et une discussion s'est engagée, qui s'est assez vite arrêtée finalement. Elle ne tenait pas à ce que je puisse exposer mon point de vue. Mais je dois reconnaître que bien d'autres fois, j'ai laissé dire. Et je me dis que l'exemple de David doit nous encourager à ne pas laisser dire n'importe quoi sans réagir. Maintenant, comprenez-moi bien, je ne vous demande pas d'aller acheter une fronde en sortant. Deuxième caractéristique de David, il place toute sa confiance en Dieu. Quand il marche en direction de Goliath, voilà ce qu'il lui dit. « Tu marches contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et te couperai la tête. » David n'a pas placé sa confiance dans l'armure ou dans les armes de Samuel que ce dernier voulait lui prêter. Il a simplement la ferme conviction que Dieu lui donnera la victoire. Je ne sais pas si je suis le seul à me poser cette question-là, mais comment il sait ça, David ? Comment je sais ce qui va se passer si je prends la parole ou si je m'engage dans quelque chose ? Eh bien, David dira simplement à Saül que dans d'autres circonstances, eh bien, Dieu l'a défendu, par exemple, face au lion et à l'ours. Et ça lui suffit pour dire, bien, puisque j'ai été protégé par Dieu, probablement Dieu va continuer. J'ai cette conviction et il s'engage. Dans d'autres circonstances, il a le temps, il consulte l'Éternel, il consulte les prophètes. Et on voit là que David est très différent de Saül, qui à plusieurs reprises a pris des initiatives bien malheureuses pour lui, parce qu'il avait peur, tout simplement. Parce que Samuel arrive plus tard que prévu, eh bien Saül offre lui-même l'Holocauste, au lieu d'attendre que Samuel arrive. À une autre occasion, pour ne pas déplaire à ces hommes qui se jettent sur le butin et qui se servent, eh bien il ne va pas rappeler que Dieu a demandé que ce butin soit voué par interdit. Alors il laisse faire. On sait la conséquence pour lui, Dieu se retire de Saül et donne l'onction à David. Est-ce que nous sommes des David ou des Saül ? Ça dépend des moments, bien souvent. On n'est pas d'un seul tenant et on n'agit pas toujours de la même façon. Mais reconnaissons que notre foi est souvent bien faible, à l'image de Pierre qui s'avançait sur l'eau pour rejoindre Jésus, tellement il était enthousiaste de le voir. Et quand Jésus lui a dit « Viens », il s'est levé pour y aller. Quand il a regardé autour de lui, il a dit « Oh là là, mais il y a du vent, ça bouge. » Et il s'est mis à couler. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pour plaire à Dieu, eh bien, Dieu regarde à notre foi. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait cette confiance totale en Dieu. Puisque Saül a désobéi, Dieu informe Samuel qu'il a décidé de lui retirer la royauté et qu'il a choisi de la confier à David. Samuel donne donc l'onction à David, mais en tout petit comité, juste en famille. Il n'est pas intronisé roi devant tout le monde. Ce n'est pas un sacre avec un dépôt de couronne, comme on imagine par exemple pour Napoléon. Non, non, c'est fait très discrètement. Et ce qui est un peu bizarre quand on lit cela, c'est que David est choisi, mais il n'est pas encore roi de fait. Va s'en suivre une longue période, une quinzaine d'années à peu près, entre l'onction reçue par David et le moment où David prend effectivement ses fonctions de roi de Juda. Il sait qu'il a été désigné par Dieu, il sait que Saül a été rejeté, et pourtant, pendant une quinzaine d'années, il va être au service de Saül. Alors au début, Saül va lui demander de jouer de la harpe, puis il va lui confier des missions militaires que David va assurer brillamment, au point que le peuple va chanter « Saül faisait ses 1000, mais David ses 10 000 ». Et ça commence sérieusement à agacer Saül, qui est jaloux et qui, petit à petit, cette jalousie se transforme en haine. Et à plusieurs reprises, Saül va tenter de tuer David. Et David, d'une certaine façon, laisse faire. Il veille à sa sécurité. Quand il faut, il fuit, etc. Il ne subit pas jusqu'à s'offrir. Mais il ne se révolte pas. Il laisse faire. Même quand ses partisans le poussent à profiter des circonstances pour tuer Saül, David refuse. 1 Samuel 24, versets 5 à 7. Saül s'est retiré dans une caverne pour satisfaire des besoins très naturels. Il ne sait pas que David et ses hommes sont au fond de la caverne. Et les gens de David lui disent « Voici le jour où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Vous imaginez, David, quand même, ce grand général qui tremble de couper un pan de manteau. Il a fait bien plus difficile dans sa vie. Si c'est pour cela, c'est parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, loin l'apostrophe au INT, celui que Dieu a choisi à une époque, une action telle que de porter la main sur lui, car c'est lui loin, enfin car il est loin de l'Éternel. Même si Saül a été abandonné par Dieu, David voit encore en lui celui qu'un jour Dieu a choisi pour régner sur Israël. Peu lui importe finalement que Saül ait été injuste à son égard, qu'il ait tenté de le tuer. David ne se vengera pas, il ne se fera pas justice lui-même. Il dira à Saül, « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. » David attend patiemment que justice soit rendue, mais il ne rendra pas justice lui-même. Il reste dans une soumission totale à Dieu, lui fait confiance pour lui rendre justice. Et cela sous-entend qu'il accepte de souffrir encore, injustement, par obéissance et par respect pour Dieu. En cela encore, je crois qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, même si David a écrit plein de psaumes où il dit sa confiance en Dieu, vous savez comme moi qu'il dit aussi sa détresse dans les psaumes. Par exemple, au psaume 13, versets 2 à 4, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des soucis dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Ça pèse à David cette situation. C'est de la souffrance. Et pourtant, il laissera Dieu prendre les choses en main. Il terminera au verset 6 en disant, pardon, c'est pas ça. Moi, j'ai confiance en ta bonté à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait bien. S'il n'hésite pas à dire à Dieu son désespoir et ses craintes, David finit toujours par redire sa confiance en Dieu. Et on peut remarquer que Dieu ne lui reproche pas de s'épandre et de faire part de ses tristesses, de ses désespoirs. Nous pouvons nous aussi dire à Dieu nos combats, nos découragements. Ça ne lui déplaît pas. Il connaît notre faiblesse. Il sait de quoi nous sommes faits. Venons-en à présent à la période où David accède au trône. Après donc une quinzaine d'années au service de Saül, David devient roi de Juda pendant 7 ans, puis des 12 tribus d'Israël ensuite, après que Saül ait été tué au combat. Ses premiers actes en tant que roi seront de consulter Dieu pour savoir où il établira sa capitale. Il va d'abord séjourner à Hébron, pardon, puis il prendra Jérusalem. Et le choix de Jérusalem n'est pas innocent. Jérusalem est géographiquement une charnière entre le nord et le sud. On commence à voir la guerre civile possible entre les tribus. Et donc, David va choisir Jérusalem et essayer de rétablir la paix civile. Et ensuite, il va rapatrier l'arche à Jérusalem. De voir que le premier souci de Dieu, c'est de veiller sur le peuple, de rétablir la paix et de rétablir le culte avec l'arche, ça aussi, je pense que cela a plu à Dieu. Nous avons encore là un exemple à suivre. David a su choisir les bonnes priorités. Sachons-nous aussi réserver à Dieu la place qu'il mérite dans notre emploi du temps, dans nos préoccupations, et œuvrer à des relations apaisées avec les autres. Plus tard, David voudra aussi construire un temple pour Dieu. Mais Dieu a prévu de confier cette tâche à Salomon, qui lui succédera. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé aussi de vouloir faire le bien, quelque chose qui vous semble aller dans le sens de la volonté de Dieu, et d'être arrêté, d'être empêché? Comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là? Est-ce qu'on en prend ombrage? Est-ce qu'on est vexé? David, lui, n'en prend pas ombrage. Il fera tout ce qu'il peut pour préparer la construction du temple et faciliter la tâche de Salomon. Alors que nous vivons une époque où beaucoup voudraient en avoir toujours plus et ne sont jamais vraiment contents de ce qu'ils ont, David sait être reconnaissant pour ce qu'il a reçu de Dieu, même si Dieu ne lui accorde pas la totalité de ce qu'il espère. Samuel 7, versets 18 à 21. Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de tes serviteurs pour les temps à venir. Tu daignes instruire un homme de ces choses. Que pourrais-tu dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. » Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est de la reconnaissance qui s'exprime dans ces paroles. Ce n'est pas de l'amertume ou « pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je te fasse un temple ?» David ne discute pas les décisions de Dieu. David dit à Dieu, mais qui suis-je? Je ne méritais rien. Souvenons-nous que nous non plus, nous ne méritions rien. Que le pardon de nos péchés acquis par Jésus à la croix, c'est un don gratuit, une pure grâce. Et si Dieu n'exauce pas toutes nos requêtes ou tarde à y répondre, prenons exemple sur David qui sait rester humble et reconnaissant. David n'a pas toujours plu à Dieu. Lui aussi a péché. Dieu s'en souvient d'ailleurs quand il le mentionne dans 1 Roi 15 que nous avons lu. Et quand l'Éternel envoie Nathan chez David pour le confondre, quelle est la réaction de David ? À la réaction de Saül qui essaye de s'expliquer, de dire « Oui, non, mais t'étais en retard » ou « Oui, mais j'ai eu peur », enfin de chercher des prétextes. Aussitôt, David confesse son péché. « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Dieu n'a donc pas tardé à accorder son pardon parce que David n'avait pas tardé à le confesser, ce péché. La sanction prévue pour l'adultère, c'est la mort. Et pour le meurtre, bien sûr, aussi. Pourtant, Dieu ne le condamne pas à mort, mais il le punit quand même. L'enfant né de l'adultère mourra. Même si la faute est pardonnée, elle n'est pas sans conséquence. Que fait alors David ? Il ne se révolte pas. Il se sait coupable et il connaît la loi. Mais il continue d'implorer la faveur de Dieu durant 7 jours. Et il espère en sa compassion. Pendant 7 jours, il refuse de rejoindre les autres. Il reste dans sa chambre et il prie. Et quand il comprend, en voyant les serviteurs chuchoter entre eux, que l'enfant est mort, eh bien, il met fin à son jeûne. Il refait sa toilette, dirons-nous, il reprend son apparence normale et il recommence à vivre. Et les gens autour de lui n'y comprennent rien. Quelle est l'explication que donne David ? Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je ? Puis-je le faire revenir ? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Il a espéré jusqu'au bout, en la compassion de Dieu. Mais une fois qu'il a compris que la sentence a été accomplie, il accepte et il repart de l'avant. Pour ma part, je me dis que David a su accepter le pardon de sa faute. Il ne continue pas à se lamenter, à se sentir coupable. Et si vous êtes comme moi, ce n'est pas si facile forcément d'accepter le pardon. On se sent encore souvent accusé. L'adversaire, le diable, nous rappelle souvent nos fautes pour nous entretenir dans ce sentiment de culpabilité. Et l'écouter revient d'une certaine façon à renoncer au pardon offert par Dieu, en tout cas à ne pas en profiter pleinement. Quand Dieu pardonne, il efface notre péché. Hébreux 10, verset 17 dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. C'est un verset qu'on trouvait déjà dans Ésaïe 43, 25. Il a plu, je pense, aussi à l'Éternel que Dieu sache accepter son pardon. Imaginez la situation simplement où vous pardonnez à un de vos enfants, par exemple, et qu'il ne veuille pas être pardonné. Ça vous paraît très bizarre, non ? Vous ne comprendrez pas ça. Je veux lui pardonner et lui, il ne veut pas. Pourquoi ? Je pense que c'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu nous offre son pardon. Acceptons-le avec reconnaissance et humilité, comme l'a fait David. Au psaume 32, David dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. David dit ici son soulagement, sa joie de se savoir pardonné. Cette joie, nous aussi, nous pouvons la connaître, car nous avons un avocat auprès du Père, nous est-il dit, qui intercède pour nous et qui s'est offert en sacrifice à la croix. Souvenons-nous qu'aussi difficile qu'une faute soit à avouer, il y a bien des choses où on arrive à dire « oui, bon, c'est vrai ». Il y a quelquefois des péchés qui sont beaucoup plus difficiles à confesser, ceux avec lesquels on se bat depuis 30 ans et dont on n'ose même jamais parler à qui que ce soit, peut-être. Sachant que même ces péchés-là, si nous les confessons, nous serons soulagés du poids de notre culpabilité. Mais que sans confession, nous restons sous la condamnation de Dieu. Reconnaître honnêtement nos erreurs constitue la première étape pour y remédier. On retrouve le même type d'attitude après que David ait fait procéder au recensement d'Israël, malgré les réticences de Joab. Quand il prend conscience de sa faute, et on ne comprend pas trop pourquoi il ne réagit pas avant d'ailleurs, mais enfin quand il prend conscience de sa faute, il est écrit « Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple. » C'est la deuxième fois qu'on voit là, et ce n'est pas la seule fois où l'émotion prend David quand il se rend compte de ce qu'il a fait. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis une grande faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi comme un insensé. Dieu lui donnera alors à choisir entre trois châtiments. Vous imaginez le dilemme? Vous êtes chef d'État, puisque bon, David est roi, et Dieu lui propose de choisir entre 7 années de famine, pour le peuple, pas seulement pour David, 3 mois de déroute militaire devant les ennemis, ou 3 jours de peste dans tout le pays. Alors ça, c'est peut-être mon côté mathématicien, mais 7 années, 3 mois, 3 jours, ben, bon, moi je prends minimum. En sachant pas du tout si c'est la bonne décision. Mais que répondit David, lui, sur quelle base il a fait son choix? David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Dans 2 Samuel, il est dit que c'est l'Éternel qui s'était en colère contre Israël qui a incité David à procéder à ce recensement. Mais dans le livre des Chroniques, il est dit que c'est Satan qui a poussé David à agir ainsi. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais on voit ici la conviction de péché chez David et encore la demande de pardon. Je ne sais pas comment vous comprenez que Dieu épargne Jérusalem. Dans l'Écriture, Jérusalem, c'est la ville de David. Je me dis que peut-être pour David, parce que David agissait selon le cœur de Dieu, peut-être est-ce là une explication au fait que Dieu a épargné Jérusalem. Que dirons-nous donc pour résumer? David fut un homme qui aimait Dieu, qui le respectait, qui veilla à ce que Dieu soit honoré. David a fait confiance à Dieu même dans l'adversité, même lorsqu'il était accablé, désespéré. Dans un autre épisode que je n'ai pas évoqué ici pour ne pas être trop long, Quand David revient dans un village qui a été complètement dévasté par les Amalécites, où les femmes, enfants ont été emmenés, kidnappés et tout, et où ces hommes se retournent contre lui en disant « mais c'est ta faute » et ils sont sur le point de lapider, il nous a dit « David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. » Il a fait confiance à Dieu pour lui rendre justice, quitte à continuer de souffrir injustement. Contrairement à Salomon, il a su rester humble et reconnaissant, fidèle à Dieu. Lorsqu'il lui est arrivé de pécher, il a su reconnaître ses fautes, mais aussi accepter le pardon de Dieu et assumer les conséquences de ses fautes. Enfin, il espérait toujours en la compassion de Dieu. À Saül qui se défendait devant Samuel, qui tentait de se défendre devant Samuel, Samuel répondra « L'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Je crois que si David plut à Dieu, ce n'est pas forcément pour tout ce qu'il a fait de lui-même pour Dieu, mais parce qu'il fut un exemple de soumission, de fidélité à Dieu. En cela, il fut un homme selon le cœur de Dieu. Oui.